France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Nous concluons cette semaine par deux démarches intelligentes et novatrices. La première est dans le territoire de Belfort. Nous sommes arrêtés chaque jour de cette semaine. Il s'agit d'une jeune start-up qui a inventé un revêtement routier révolutionnaire. Elle s'appelle Purple Alternative Surface et ce produit conçu sous forme de dalle de produits recyclés est antidérapant, perméable, démontable à souhait, recyclable à 100% en fin de vie et 100% fabriqué en France. Explication avec Pierre Quinonero qui nous attend au bout du fil. Ensuite, nous appellerons Florent Boitiat, auteur, avec Étienne Mathieu d'une BD magistrale qui fait découvrir aux lecteurs la vie des territoires, des femmes et des hommes qui les habitent, le long de la ligne TGV Paris-Lyon. Deux mondes qui s'entrevoient de loin à 300 km/h.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Pierre Quinonero, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous rejoint du côté de Belfort, sur le territoire de Belfort, pour votre start-up que vous avez créé avec Sébastien Molas en juin 2020. C'est révolutionnaire ce que vous proposez, je tiens à le dire. Alors, votre produit et votre start-up, d'abord, c'est Purple Alternative Surface. Je le fais version française. Et pourquoi Purple, vous, chers amis, écoutez bien, c'est parce que Pierre et Sébastien ont écouté à ce moment-là Purple Rain de Prince.
Oui, c'est ça. Bah, on est quatre cofondateurs et puis bah, on faisait des soirées pour débriefing pour chercher un nom pour notre start-up et puis bah, c'est là que la chanson est passée. Donc le nom était tout trouvé en fait. Hein.
Alors, ensuite, il y a quand même le processus. Vous l'avez inventé avec qui, comment? C'est très particulier et je dis c'est révolutionnaire.
Bah, à la base, si vous voulez, on vient du monde du BTP quand même, hein, des travaux publics. Et puis moi, je suis un ancien promoteur. Sébastien est ingénieur en voirie réseau d'hiver. Et puis, ben, on avait cette problématique de trouver des solutions simples à poser, simples à démonter, écologiques, éco-responsables. Et puis, ben, c'est comme ça qu'il nous est venu cette idée de faire cette dalle. On voulait la faire avec des déchets plastiques. Et c'est là qu'on s'est tourné vers le milieu des déchets, du recyclage, de la plasturgie. Et on a mis plus de 8 mois avec un plasturgiste pour trouver une solution. Pour avaler directement du broyat de déchets de plastique et de composites, à la place de faire tout un procédé de compoundage, de refaire des granules, etc., etc.
Et dans les déchets, il y a même des pales d'éoliennes?
Alors c'est ça, on a fait pas mal de R&D avec Plastic Odyssey, qui est le bateau qui va faire le tour du monde, oui, pour trouver des solutions pour le plastique. Ils ont un laboratoire en interne, et avec leur laboratoire, on a réussi à passer 30% de pales d'éoliennes broyées, ce que ça va être un problème dans les années à venir, puisqu'on commence à démanteler les premières éoliennes. Et donc, nous, on a trouvé cette solution dans la matière première avec laquelle on fabrique nos dalles. C'est un petit peu notre recette de gâteau, notre recette de cuisine. On a réussi à passer 30% de broyat de pales d'éoliennes avec des polymères, et ce qui fait qu'on trouve une sorte de pâte qui va produire nos dalles.
Alors, ce sont des dalles hexagonales?
Oui, alors elles sont hexagonales parce que elles reprennent plus de force quand on tourne en voiture. Du coup, elles s'appuient sur trois côtés. Donc, c'est pour une question de reprise de force. Et puis, quelque part, c'est des formes qu'on retrouve dans la nature. Donc, on a une sorte de nid d'abeilles en dessous. Et elles font 5 kilos. Et donc, on arrive à recycler à peu près 25 à 28 kilos au mètre carré de déchets. Donc, c'est énorme. Sur l'espace d'un terrain de foot, c'est 250 tonnes. On veut peser vraiment dans la transition écologique pour trouver une solution à des plastiques qui n'étaient pas recyclés aujourd'hui. Mmh. Donc aujourd'hui, on a un premier contrat avec le Citevom en Haute-Saône, à côté du territoire de Belfort, où vous êtes aujourd'hui, et on a détourné 350 tonnes de plastique qui étaient enfouis. Et aujourd'hui, on les transforme en dalles Purple.
Alors, c'est un revêtement perméable, démontable, antidérapant, 100% recyclable.
C'est ça. Bon, on voulait vraiment que ça soit éco-responsable. Donc, une fois usé, d'ici 30 ans, nous, on récupère les dalles usagées et on les rebroie, on les repasse dans notre matière première à un certain pourcentage qui fait qu'on peut les réutiliser à l'infini. Donc, c'est vraiment ce qu'on voulait. Et puis, oui, ils sont démontables. Si vous avez des problèmes de réseau souterrain, et on les utilise exclusivement pour le moment pour les parkings, mais on a des demandes pour des campings, pour de l'événementiel, où ils vont pouvoir les poser, faire leur événement, les démonter, les récupérer. Voilà, on a des utilités qu'on n'avait pas imaginées au départ. On a même un aérodrome pour carrer les avions dessus. Et donc, voilà, on est bien parti. On commence nos premières ventes depuis le 31 mars, donc c'est vraiment récent. On a déjà vendu plus de 1000 m2 et puis on espère en vendre beaucoup cette année.
Un jour, une autoroute Purple ?
Alors non, vraiment, c'est pas prévu pour faire des voiries de haute vitesse, hein, puisque c'est comme les pavés à Paris, quand vous roulez sur les Champs-Élysées, ça fait du bruit. Donc c'est vraiment pour les basses vitesses. Mais par contre, on travaille sur la Smart City, donc on a déjà des dalles éclairantes, et on imagine intégrer de l'intelligence artificielle et des dispositifs électroniques dans nos dalles pour récupérer de la data du sol. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'objets connectés dans le monde, il n'y a pas de route connectée. Donc on serait la première route connectée au monde. Et donc on travaille avec l'Université Technologique de Belfort-Montbéliard, l'UTBM, avec le Crunch Lab de Belfort, sur des technologies avancées pour apporter de l'intelligence à la route.
Et puis une dernière note, c'est encore mieux parce que je pense à nos amis en deux roues, vous savez, qui passent sur des passages piétons, dès qu'il y a un petit peu de pluie, ça devient une patinoire et qui se prennent des gadins à cause de ça. Là, c'est un bon remède.
On espère. Justement, on travaille sur des passages piétons connectés et éclairants pour la nuit, pour la sécurité. Donc nous, on veut vraiment aussi travailler sur plus de sécurité sur les routes, sur les voiries douces.
Super invention. On est vraiment très fiers de colporter cette bonne nouvelle.
Purple. Ben, c'est gentil, merci à vous.
Purple Alternative Surface.com pour l'adresse. Merci Pierre et bonne suite.
À bientôt.
À bientôt.
France Inter, carnet de campagne.
Lucie a bien fait de nous écrire puisqu'elle est à l'origine avec 3 associés d'une coopérative aux fonctions très vertueuses. Cette SCOP, baptisée l'entrepôt en référence au contenant qu'elle utilise, a mis en route la première plateforme de conditionnement de produits alimentaires d'épicerie sèche, bio et locaux. Lucie, ingénieure des industries alimentaires, a donc imaginé la gestion des produits d'épicerie sèche, du sel au riz en passant par les légumineuses, dans des fûts de 200 litres avant reconditionnement, dans des contenants plus petits, caisses ou fûts inox, destinés aux professionnels de la restauration collective et aux épiceries. Surtout, pour ne pas repartir à vide de chez nos clients, comme elle le précise dans son courrier, nous leur collectons leurs biodéchets pour les rapporter chez les producteurs. Le processus a été conçu dans la perspective de répondre aux exigences modernes par la valorisation des déchets, une stratégie dite des 3R, recyclage, reconditionnement, réemploi et une économie parfaitement circulaire. À cela s'ajoute l'avantage de la SCOP qui tient à un partage de la réussite de l'entreprise entre tous les salariés. Quant à la gestion des biodéchets, la manœuvre a été réalisée avec Cyclocompost, une société qui a fusionné avec l'entrepôt afin de mettre en bout de champ des filières de compostage. Il y a une page Facebook, l'entrepôt Avignon, parce que j'ai pas précisé, mais cette SCOP a son siège à Avignon. Florent Boitia, bonjour.
Bonjour.
J'ai une œuvre. Alors c'est une œuvre, c'est une épreuve, c'est une version projet. Mais mille bravos à vous et Étienne Mathieu. 1 pour l'idée du projet, 2 pour le résultat. Ça s'appelle Sortie des rails et on traverse avec vous des paysages qui suivent la ligne TGV Paris-Lyon, qui est la ligne la plus fréquentée d'Europe ?
Oui, tout à fait. C'est aujourd'hui la ligne la plus fréquentée. Elle dessert, il y a 120 000 personnes par jour qui passent dans tous ces paysages, dans ces petites vallées.
C'est 240 trains quotidiens sur cette ligne.
Oui, les rames se succèdent dans ces paysages.
Ouais, sur la couverture, on voit, d'ailleurs il y a de très belles aquarelles d'Étienne Mathieu dans l'ouvrage, dans la BD, la fameuse roche de Solutré. Mais on a surtout les repères sur la ligne, et quand on est voyageur à 300 km/h, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces repères. Et vous, vous allez les voir justement, vous les interrogez, et vous mettez en connexion un monde qui n'est pas toujours relié l'un à l'autre, à savoir le monde extérieur à la ligne, des personnes qui ont par exemple suivi les travaux d'installation et de création de cette ligne TGV, et qui pour certains ne sont jamais montés dans un TGV.
Oui, alors ça part d'une espèce de passion personnelle. Moi je prends le TGV entre Lyon et Paris depuis plus de 10 ans pour mon travail. C'est un moment que j'aime bien, hein. C'est un moment de, un petit peu où on est dans une bulle, j'arrive à bien me concentrer, j'arrive à travailler 2 heures tout du long. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'on lève la tête, on voit des belles choses, on voit des paysages, on regarde des petites choses dans le paysage, des châteaux, un aqueduc, de jolis villages. Mais c'est vrai que il y a comme une frustration de jamais vraiment savoir ce qu'on voit ni où on est. Et puis en même temps, il y a l'envers du décor aussi, les territoires qui eux-mêmes voient passer les TGV. qui bénéficient pas forcément de ces avantages, puisque tous les territoires sont pas desservis, évidemment. Et voilà, ce décalage que vous citiez, hein, enfin, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là à l'époque, le slogan au lancement du TGV, c'était gagner du temps sur le temps. Ouais. Et donc voilà, c'est vrai que cette vitesse et le côté un peu bulle, dans laquelle on est dans le TGV, ça crée vraiment pour moi un décalage entre deux mondes qui se frôlent en permanence sans se toucher. D'un côté, plutôt des urbains qui vont d'une métropole à l'autre, presque comme s'ils prenaient le métro, hein, c'est 2 heures, c'est somme toute la grande banlieue de Paris. Et puis de l'autre, des territoires ruraux, la campagne, paisible, la nature. Donc c'est deux mondes qui se connaissent pas, qui partagent pas grand-chose et qui pourtant, à un moment donné, se trouvent au même endroit.
On sent parfois cette campagne affectée, pas uniquement par la création de la ligne TGV, mais tout ce que cela a engendré sur les premiers 100 kilomètres. On voit les lignes à très haute tension, les aqueducs et toute l'alimentation de Paris. Et on se dit que finalement, c'est toute la campagne qui alimente Paris en énergie.
Ouais, c'est tout à fait ça. Et ça nous a d'ailleurs été dit quasiment texto, c'est que avec les éoliennes, notamment, c'était au sujet des éoliennes, on vient polluer les campagnes pour que ce soit propre dans les villes. C'est-à-dire pour apporter l'électricité, notamment pour les voitures et tout ça, en ville, on vient polluer la campagne. Alors, il n'y a aucun parti pris de notre part sur ces propos, hein, on les a restitués tels quels, mais voilà, c'est intéressant d'avoir ça, ce point de vue-là. Et puis, alors vous citiez toutes ces infrastructures à proximité plus immédiate de Paris. C'est vrai que sur le plateau de l'Abri, hein, qui est ce plateau qui est traversé par la ligne au début, on a des gens qui luttent un petit peu contre l'extension urbaine de Paris, qui veulent préserver leur cadre de vie, qui est encore pas mal naturel. Et puis voilà, on a Paris qui effectivement va chercher des ressources assez loin. On a un aqueduc qui longe la ligne, c'est plutôt l'inverse. Ouais. L'aqueduc de la Vanne qui passe près de Sens, pareil, cet aqueduc il est là pour irriguer Paris en eau potable, hein, donc c'est vraiment une capitale qui va chercher loin ses ressources.
Votre souhait à travers ce beau travail, je signale que vous cherchez un éditeur, et votre souhait c'est de faire descendre du TGV, c'est de prendre le temps de découvrir l'envers de ce décor.
Alors nous c'est ce qu'on a fait, nous on a ralenti le temps. On a fait en 10 jours ce que les voyageurs font en 2 heures. Ouais. On a vraiment pris le temps de se reconnecter à la nature aussi. On a fait ce trajet en dormant en bivouac, hein, pour vraiment être au plus près, au plus proche. Changer de monde, changer d'état d'esprit, voir les choses autrement. Bon, après, on sait que les 120 000 voyageurs par jour, ils vont pas tous faire ça. Ce qu'on aimerait à minima, c'est, et ça nous paraît pas négligeable, c'est essayer de faire du lien entre les deux côtés de la vitre du TGV, en fait. C'est-à-dire donner à voir. Donc là, aujourd'hui, à travers cette BD, demain, à travers une application qui permettra de savoir ce qu'on voit de l'autre côté de la fenêtre, ce qu'il y a à voir, comment sont les territoires, où on se trouve. C'est un peu comme les panneaux marrons touristiques sur les autoroutes, si vous voulez. Ce qu'on veut faire, c'est en plus riche, évidemment. C'est-à-dire que à un moment donné, on voit les intérêts touristiques de la région qu'on traverse. Bon, l'avantage, c'est qu'un voyageur... TGV a plus de disponibilité pour regarder son smartphone qu'un conducteur de voiture. Et on voudrait en profiter du coup pour lui faire connaître les territoires qu'il est en train de traverser. Et à l'inverse, pour les territoires, c'est aussi une formidable opportunité de se mettre en avant, de se mettre en valeur auprès de ce public qui passe sur son territoire quotidiennement. Quoi.
Merci beaucoup pour ce beau projet Sortie des rails, Florent Boitiat, Étienne Mathieu. Et je rappelle donc qu'un éditeur est attendu et vraiment, il y a de quoi faire. C'est une très très belle idée. Merci Florent.
Eh bien, merci à vous.
Un dernier mot sur les initiatives qui germent dans le territoire de Belfort. Des étudiants en école d'ingénieurs sensibilisés aux enjeux climatiques et à la nécessité d'une transition écologique forte ont créé une chaîne YouTube intitulée « Le dessus des énergies » qui résulte d'un tour de France des acteurs de cette transition. Alors ce média est très bien réalisé, il décrypte les enjeux de la transition énergétique et de la croissance verte dans différents secteurs de l'économie. Leurs dernières vidéos très pédagogiques ont analysé tous les programmes écologiques avancée par les candidats à l'élection, à la dernière élection présidentielle. Les auteurs ont fait un beau travail de décryptage des programmes sans aucune participation d'ailleurs des candidats, à l'exception d'une seule personne qui a accepté de répondre à leurs questions. Ce travail mérite d'être salué. Il y a une page Facebook, c'est Dessous des énergies. Merci à Joël Levert, merci aux techniciens et techniciennes qui œuvraient à la réalisation des carnets de campagne, en particulier aujourd'hui Pierre-Yves de Rolin, et merci à Ronan Mahé pour la diffusion. Nicolas Nicolas Stoufflet, assisté de Yann Paillet, Le jeu des 1000 euros. C'est la dernière à Danjoutin.